Bonjour à toutes et à tous. Êtes-vous fatigué? Déjà, hein? C'est le premier jour de 2017 et on est vraiment fatigué, mais j'espère que Dieu va nous donner de sa force pour se concentrer sur sa parole. Nous nous trouvons aujourd'hui dans un temps où on réfléchit plus que normal. On est en train d'examiner, peut-être de s'examiner pour regarder à nos cœurs. Est-ce qu'il y a des défauts que je dois me déployer? Est-ce qu'il y a des choses que je dois ajouter à la vie? Et ce sont des, je pense que ça c'est correct. Ça c'est quelque chose de bien. Et c'est à cause de ça que je veux bien ce matin que nous considérions ensemble le psaume 16. Le psaume 16, on va le lire ensemble. Les psaumes sont une fenêtre pour regarder la vie intérieure d'un croyant. Souvent, on peut regarder autour de nous, mais tout ce qu'on peut voir, c'est les actions, c'est l'extérieur. Mais nous connaissons nos cœurs. Et parfois, ça, c'est effrayant. Et c'est en grâce de Dieu d'avoir dans la Bible, par l'inspiration du Saint-Esprit, ces psaumes. Parce qu'ils révèlent la vie normale et intérieure d'un croyant. On a des hauts et des bas. Et ça, c'est normal pour nous. On va lire le psaume 16. Je vais le lire et vous pouvez le suivre. Hymne de David. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Je ne réponds pas à leur libation de sang. Je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assure mon lot, un héritage délicieux m'est échu, une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel, mon conseiller, la nuit même mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux, quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi, mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternels à ta droite. Amen. Ce sont les paroles de Dieu pour nous. Ce matin. Voilà, aujourd'hui, juste après minuit, des millions de personnes ont commencé à prononcer la bénédiction française. Connaissez-vous la bénédiction française? Bonne année, surtout la santé. Ouais, ça, c'est la bénédiction française. Et on entend ces mots prononcés partout, par des amis et aussi par des inconnus. Et dans un sens, le souhait nous donne un sentiment positif et optimiste par rapport à la nouvelle année, n'est-ce pas? On pense, oui, l'année 2017 sera plus agréable, je réussirai. Hein? Nos voisins, nos collègues et nos camarades et nos familles souvent que 2017 sera bon si nous gardons nos postes de travail ou nous obtenons un salaire important ou nous réussissons au bac ou nous pouvons acheter une maison ou nous passons les vacances dans un lieu exotique ou nous trouvons l'amour ou notre équipe de foot préférée gagne, mais surtout, même si tout cela ne se réalise pas, 2017 sera bon si nous avons une bonne santé. Ça, c'est comment nous pensons souvent. Mais si nous prenons un moment pour réfléchir, nous voyons clairement que la bénédiction française, bonne année et surtout la santé, est annoncée fidèlement chaque année parce que chaque année est fidèlement remplie de douleurs et de difficultés, n'est-ce pas? Sans exception, les années sont remplies de douleurs et de difficultés. C'est à cause de ça qu'on annonce chaque année bonne année et bonne santé. Même nous qui sommes parmi les plus privilégiés du monde, nous devons passer par des moments, et pour ne pas dire des semaines ou des mois, difficiles chaque année. En plus, souvent, nous ne pouvons rien faire pour éviter ces souffrances. Nos souffrances viennent malgré tous nos efforts parce que la douleur fait partie de notre monde déchu. Nos relations, nos métiers et nos corps sont tous touchés par la malédiction de Dieu annoncée en Genèse chapitre 3. Voilà. Est-ce qu'il y a donc de l'espérance que 2017 pourrait être bon? Et la réponse est oui. Mais de ce qui fera que l'année 2017 sera bonne n'est pas lié aux choses matérielles comme pense le monde incroyant. L'année 2017 pourrait être bonne et en même temps remplie des moments difficiles et douloureux si nous gardons à l'esprit une vérité fondamentale exprimée dans les quatre premiers versets du psaume 16. La vérité que Dieu est le seul bien d'un chrétien. Bon, nous allons considérer ces quatre versets ce matin afin de préparer nos âmes pour l'année 2017. Qu'est-ce qu'il faut pour avoir une bonne année? C'est seulement ça. Il faut Dieu. Il faut Dieu. Il est notre bien. Bon, d'abord, notez la nature précaire de la vie de David. Bon, David était un roi. Donc, on peut penser, bon, pour lui, c'était facile, hein. Il était un roi, il avait tous, donc, bien sûr, il avait une bonne année. Mais regardez ce qu'il dit au verset 1 du psaume 16. Juste après qu'on lit, c'est un hymne de David, il dit quoi? Quels sont les mots suivants? Garde-moi, protège-moi. D'accord? Et après, à la fin du verset 1, nous lisons ces mots. Je cherche en toi mon quoi? Mon refuge. Hein? Sommes-nous en danger? Et plus tard, je pense que c'est le verset 8, on lit, quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. D'accord? Garde-moi, mon refuge, ne chancelle pas. Ces mots nous font penser que la vie de David était dans une situation précaire, n'est-ce pas? Qui a besoin d'être gardé? Quelqu'un en danger d'être attaqué. Qui a besoin d'un refuge? Quelqu'un en danger d'être blessé. Qui a besoin d'aide pour ne pas chanceler? Quelqu'un en danger de tomber. Il avait une vie, une situation précaire. Dans ce psaume, David se déclare en danger et il se déclare dépendant d'une source extérieure à lui pour la sécurité. Si nous prenons un moment pour réfléchir, nous trouvons, c'est une question, nous trouvons-nous dans une situation aussi précaire que celle de David? Il ne semble pas, peut-être. Avons-nous besoin d'être gardés? Avons-nous besoin d'un refuge? Sommes-nous en danger de chanceler? Ce sont des questions importantes pour nous. Malgré la sécurité de notre pays, et je suis reconnaissant pour notre pays, mais malgré la sécurité de notre pays, nous vivons face au danger quotidiennement. Bon, les films aiment poser une situation où une météorite énorme s'approche à la Terre. Hein, vous voyez? Et si quelqu'un ne peut pas détruire ou détourner le météorite, nous aurons une apocalypse, la fin de l'humanité. Bon. Ça fait une histoire intéressante, mais je n'en ai pas peur parce que cela me semble peu probable. Ouais. Ça, c'est pas vraiment un danger pour nous. Être une victime d'un attentat, c'est plus probable maintenant, mais encore une fois, franchement, je n'en ai pas beaucoup de peur parce que le danger n'est pas imminent. Mais la vérité, c'est qu'il y a beaucoup de dangers effrayants autour de nous. Un seul accident de voiture pourrait instantanément altérer ma vie, ou même la terminer. Un microbe invisible attrapé dans le métro pourrait irrémédiablement altérer ma santé. Une crise économique pourrait supprimer notre moyen de gagner la vie. Un seul incendie peut enlever tous nos biens. Une action pécheresse pourrait profondément blesser une relation ou briser nos âmes. Nous ne sommes jamais loin d'une catastrophe parce que nous ne contrôlons pratiquement rien dans ce monde. Nous sommes en fait, tout comme David, entourés par le danger. La vie est précaire, même en France. Ça, c'est notre situation. Elle est précaire. Mais deuxièmement, notez la relation entre David et Dieu. Et c'est une relation de dépendance. Comment vivre une vie normale et pleine de joie dans un monde fou et dangereux? Nous pouvons le faire en reconnaissant notre dépendance de Dieu. Nous sommes dépendants de Dieu. David affirme tout de suite qu'il dépend de Dieu pour la sécurité en disant que Dieu est son refuge. Il implique aussi sa dépendance de Dieu quand il demande d'être gardé par Dieu. Mais il y a une autre indication que David dépend de Dieu pour la sécurité dans sa vie précaire. Et cette indication nous donne un peu d'idée de la relation entre David et son Dieu. On va noter que David utilise le nom de Dieu éternel, ou Yahweh, ou Jéhovah, et il utilise aussi un titre pour Dieu, mon Seigneur. Voilà. Quand David utilise le nom l'Éternel, ou Jéhovah, et il fait 4 fois, il utilise le nom que Dieu utilise pour communiquer sa fidélité, sa loyauté, son amour pour ceux qui font partie de son alliance. C'est son nom très, très intime. Hein. Ça communique un peu l'idée qu'il est le père, le papa à son peuple. Un passage clé pour comprendre ce nom est Exode, chapitre 6, le verset 3-4, où il dit « Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob, comme le Dieu tout-puissant. Mais sous mon nom l'Éternel, je n'ai pas été reconnu par eux. » C'est-à-dire, J'étais leur Dieu, ça c'est vrai, mais maintenant je me révèle d'une manière plus intime à toi et à la nation d'Israël. Et maintenant, on a quelque chose encore plus intime. C'est Jésus, Dieu, parmi nous. Et qui habite en nous, qui demeure en nous. Quand David dit, protège-moi l'Éternel, il dit, protège-moi Dieu, parce que je fais partie de ton alliance. Il y a entre nous une relation très intime. Regarde à moi et protège-moi. Il est dépendant, mais il y a une relation intime entre ces deux personnes. Mais David ajoute le titre Adonai, ou Seigneur, pour communiquer le fait que l'Éternel est son maître. Et ça donne, oui, ça donne l'idée que c'est Dieu qui dirige, c'est Dieu qui est le chef. Mais il y a aussi une relation entre le serviteur et son maître. Tout comme les serviteurs d'un maître humain, David dit que Dieu pourvoit tous ses besoins. Si le maître ne pourvoit pas pour le serviteur n'aura pas ce dont il a besoin. La bonne nouvelle pour David et pour nous qui sommes chrétiens, c'est que ce maître est le Tout-Puissant, l'Éternel, pour lui. Et ça doit communiquer quelque chose à nous. Nous qui disons, d'accord, Jésus, tu es notre maître, Seigneur, mon Seigneur. Ça communique bien sûr le fait qu'il est le chef, d'accord, il dirige. Mais ça communique aussi qu'il s'occupe de nous, parce que nous sommes ses serviteurs, ses servantes. Et il pourvoit pour nous, afin que nous avons tout ce qu'il faut pour le servir. Et ça, c'est la relation de dépendance entre David et Dieu au psaume 16. Il y a une question logique à poser maintenant. C'est quoi? Êtes-vous dans une telle relation avec Dieu? Est-il votre maître? Êtes-vous dans une alliance avec lui? Et peut-être vous ne savez pas comment entrer dans une alliance avec Dieu. Bon, ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas facile pour lui, mais ce n'est pas compliqué. Jésus, quand il est venu, il a dit, juste avant de se sacrifier sur la croix, il a dit, cette coupe est quoi? La nouvelle alliance en mon sang. D'accord? Qui est répandue pour vous. Bon. Quelques années plus tard, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous explique ce que Jésus a affirmé ce soir-là. Il écrit, c'est chapitre 9, la fin de chapitre 9 en hébreu, et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le soient par des sacrifices plus excellent que cela, car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire, mais pour offrir un autre sang que le sien. Autrement, il aurait fallu qu'il ait souffert plusieurs fois depuis la création du monde, mais maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour faire croire, pour effacer le péché par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Bon, quand on parle d'une alliance entre une personne et Dieu, on parle toujours de quelque chose que Dieu a fait. C'est Dieu qui vient et dit, moi, je suis Dieu, tu es un homme, tu es une femme, pécheur, pécheresse. Mais moi, je veux établir une alliance entre moi et toi. Je serai ton Dieu, votre Dieu, et vous serez mon peuple. Mais comment établir cette alliance? Il faut un sacrifice, il faut le pardon du péché. Et donc, Jésus est venu pour s'offrir, pour donner sa vie, pour répandre son sang afin de pardonner les pécheurs. Et les pécheurs qui répondent avec la foi en Jésus-Christ entrent dans cette alliance. Ça, c'est l'alliance avec Dieu. Si vous n'êtes pas chrétien, sachez que la foi en Jésus est le seul moyen par lequel vous pouvez entrer dans une alliance avec Dieu. Vous ne pouvez pas gagner votre place dans l'alliance. Par les œuvres, par être gentil, vous devrez croire ce que Jésus a annoncé. Le royaume de Dieu est venu et c'est par moi que vous pouvez entrer. Vous êtes, et moi aussi, nous sommes par nature des rebelles, qui rebellent contre la volonté de Dieu. Et cette rébellion mérite le jugement de Dieu, mais Dieu offre un pardon gratuit à tous ceux qui se détournent de leur rébellion et qui mettent leur confiance en Jésus pour le salut. Ça, c'est la bonne nouvelle. Vous pouvez être sauvé de la punition que vos péchés méritent. Comment? Par la foi, la vraie foi. Mais si vous êtes chrétien, n'oubliez pas que vous faites partie d'une alliance avec le Dieu créateur. Ce matin, vous faites partie d'une alliance avec Dieu grâce à Jésus-Christ. Si vous êtes né de nouveau, si vous avez la vie de Christ en vous, vous êtes un enfant de Dieu. Il a promis qu'il sera votre Dieu et que vous serez son enfant. Le Dieu qui vous l'a promis n'a pas la capacité de mentir. Son alliance est sûre et incassable. Quel confort, hein? Quel confort. Si je suis en Christ, je fais partie d'une alliance incassable avec Dieu. Et nous sommes appelés d'être fidèles comme il est fidèle. Bon, la vie est précaire, nous le savons, et nous sommes tous dépendants de Dieu. Et parmi nous, il y a ceux qui appartiennent au peuple de Dieu grâce à la foi uniquement placée en Christ. Et pour une telle personne, Dieu est son seul bien. Mais cette affirmation signifie quoi exactement? Dieu est mon bien. Ça signifie quoi? Bon, on va noter troisièmement la nature du bien que Dieu est pour un chrétien. Voilà. C'est quoi quand je dis Dieu est mon bien? Ça signifie quoi? Bon, la fin du verset 2, David écrit, tu es mon souverain bien. Bon, on peut éclairer l'idée de ces mots un peu en disant, de tous mes biens, toi, ô Dieu, tu es le souverain. D'accord? Tu es le bien des biens, tout comme tu es le roi des rois. Il y a bien sûr d'autres biens, mais tu es le bien des biens. On peut dire, peut-être avec la version Semeur, mon bonheur est en toi seul. Qu'est-ce que David veut dire par le mot bien dans ce verset? Bon, il y a, bon, ce mot apparaît beaucoup de fois dans l'Ancien Testament. Bon, on va regarder deux passages qui nous donnent un peu d'idée de ce que signifie le mot bien. D'abord, en Deutéronome 28, le verset 11. On lit ces mots. L'Éternel te comblera de bien. Comment? D'accord? 28, 11, Deutéronome. L'Éternel te comblera de bien. En multipliant le fruit de tes entrailles, c'est-à-dire des enfants, le fruit de tes troupeaux et le fruit de son sol dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères et te donné. D'accord. L'image dans ce verset, c'est celle d'un homme qui termine une journée du travail et il réfléchit. Il se dit, wow, j'ai beaucoup d'enfants autour de ma table. Ils ont de la bonne santé. Il regarde dans le champ et dit, oh, j'ai beaucoup de brebis, des moutons, des vaches. Et il pense aussi, mes silos sont remplis. Et il peut se dire, à la fin du journée, tout va bien, je suis comblé, ma vie est belle. J'ai beaucoup de bien. Et quand David dit, Dieu est mon bien, il dit, ma vie est comblée des bénédictions. J'ai tout ce que j'ai besoin. Peut-être, deuxièmement, on peut considérer un autre passage en Néhémie chapitre 2. D'accord? Parfois, on dit, oui, le bien, c'est les possessions matérielles, peut-être, ou les bénédictions matérielles. Mais en Néhémie chapitre 2, on lit que Néhémie s'approche de Jérusalem pour réparer les murailles et les portes de la ville. Lorsqu'il s'approche de la ville, il se fait affronter par plusieurs hommes qui ont un grand déplaisir parce que quelqu'un est venu pour chercher le bien des enfants d'Israël. Ça, c'est le verset 10. D'accord? Il cherche le bien des enfants d'Israël. Quel est le bien dont il parlait? C'est la construction des murailles et des portes de la ville qui assure la sécurité du peuple. Ces murailles et ces portes étaient essentielles pour une vie sûre et prospère. Alors, imaginez votre vie en France. Sans la police nationale, ou sans des portes fermant à clé. Pouvez-vous bien dormir dans le 93 sans serrure? Bon, je le doute, franchement, je le doute. Même dans le 95. En disant, tu es mon souverain bien, tu es le bien de tous mes biens, David veut communiquer que Dieu est pour lui son bien par excellence. Ça veut dire quoi? Bon, je vais essayer de répondre à cette question en deux parties. D'abord, concernant l'affirmation du monde, que la prospérité et la sécurité viennent de soit l'argent, du prestige, de la famille, de l'État, d'une bonne image de soi, de la santé, etc. D'accord? Si on veut avoir le bien, il faut avoir au moins l'une de ces choses. Dans chacune de ces affirmations, on dit que quelque chose ou quelqu'un a une valeur incomparable. Par exemple, un homme pourrait échanger sa santé pour l'argent s'il pense que la richesse vaut plus que la santé, n'est-ce pas? Il peut travailler beaucoup, beaucoup d'heures pour gagner l'argent, mais il perd sa santé parce qu'il pense, bon, je préfère l'argent parce que l'argent, ça, c'est mon bien. Ça me donne ce que je veux. Ou le même homme peut peut-être perdre sa famille pendant qu'il amasse sa fortune parce qu'il considère que l'argent porte plus de valeur que sa famille. Mais à la fin du compte, il estime que la richesse lui porte plus de bonheur que sa santé et sa famille. Et ensuite, à la lumière de cette illustration, considérez l'implication de l'affirmation de David que Dieu est son souverain bien. Cela signifie que David estime que Dieu lui porte plus de bonheur que la bonne santé, sa famille, sa richesse, etc. Pour lui, Dieu est le bien des biens. Il n'y a pas un autre bien plus essentiel que Dieu lui-même. Bon, David illustre ce qu'il veut dire au verset 5 à 6, où il dit l'Éternel, le psaume 16, les versets 5 à 6, David dit l'Éternel est mon partage et mon calice, c'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux m'est échu, une belle possession m'est accordée. Bon, cette affirmation appelle à la mémoire l'héritage des Lévites, rapporté en Nombre 18-20, où on lit, l'Éternel dit à Aaron, « Tu ne posséderas rien dans leur pays. » Ouh! Pourquoi? Parce qu'il était vraiment méchant? Non. Et il n'y aura point de part pour toi au milieu d'eux. C'est moi qui suis ta part et ta possession au milieu des enfants d'Israël. Il n'a pas reçu des champs, des maisons, des brebis, parce que Dieu était son partage. Pensez-vous que les Lévites ont dit, ah, dommage, les autres reçoivent des champs, mais nous ne recevons que Dieu. Non, hein? Avoir Dieu comme héritage est un bien incommensurable. C'est d'avoir un bien qui vaut plus que tous les biens du monde ensemble. Et ça, c'est l'estimation de David. Dieu est mon bien, c'est-à-dire, il est mon partage. Bon. L'affirmation de David est belle, mais il faut admettre que c'est vraiment simple de dire « Dieu est mon bien ». Mais comment savoir si ce sentiment, cette estimation est vraie et sincère? Ouais. Bon, vous voyez ce que je veux dire, n'est-ce pas? Je peux dire toute la journée « Ouais, Dieu, il est mon bien, il est mon bien, il est mon bien », mais comment savoir si ça, c'est vraiment mon estimation? Bon, David nous donne deux preuves de sa vie qui montrent qu'il estime Dieu son seul bien. Premièrement, David parle de son association avec le peuple de Dieu au verset 3. D'accord? Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux, sont l'objet de toute mon affection. Une personne qui trouve sa seule source de bien-être en Dieu aimera tous ceux qui font pareillement. N'est-ce pas? C'est logique. Comment une personne pourrait-elle mettre son affection sur quelqu'un qui nie ou qui dénègre sa seule source de bonheur? Par exemple, un homme qui pense se marier à une femme parce qu'en elle, il trouve tout ce qu'il veut. Mais il a des amis qui se moquent d'elle. Va-t-il passer beaucoup de temps avec ses amis qui se moquent de sa femme? Non, jamais. Il va s'éloigner d'eux afin d'être avec sa femme. Et avec sa femme, il va trouver d'autres amis qui partagent le même estimation de sa femme. Ça, c'est normal et naturel. Et c'est normal et naturel aussi pour ceux qui disent « Dieu est mon seul bien ». Ils vont chercher les autres qui disent la même chose. Dieu est leur seul bien. Et ça soulève des questions, hein? Trouvez-vous où se trouvent vos affections? Préférez-vous passer votre temps parmi ceux qui ne sont pas connus de Dieu? Préférez-vous vous divertir par les films, les livres, la musique ou les activités de ceux qui n'ont aucune affection pour Dieu? Êtes-vous facilement empêché d'assister aux réunions de l'Église? Quelle preuve montre que Dieu est notre seul bien? Est-ce que nous sommes liés à son peuple? Ce sont des questions très importantes pour 2017. Mais deuxièmement, David offre sa fidélité à Dieu comme preuve de son affirmation. Au verset 4, David dit: on multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers, je ne réponds pas leurs libations de sang, je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. On peut faire plusieurs observations par rapport à l'idolâtrie mentionnée dans ce verset. D'abord, l'idolâtrie était la mode. Tout le monde le faisait. C'était partout. C'était facile à faire avec le monde. Ensuite, l'idolâtrie était accessible. Les idoles étaient multipliées. On pouvait en trouver facilement. Aucun besoin pour chercher une idole. Puis, l'idolâtrie était agréable. Le monde courait après ses idoles. Il y avait quelque chose d'attirant pour eux. Et finalement, l'idolâtrie était personnalisée. On peut choisir entre ces idoles afin d'avoir une expérience personnalisée. À la mode, accessible, agréable et personnalisée. L'idolâtrie était vraiment charmante, tout comme aujourd'hui. On a nos idoles aussi, hein, qui nous attirent, qui sont personnalisées pour nous, hein. Pourquoi David a dit non à une chose aussi charmante? Il a dit non parce qu'il faisait partie à une alliance avec Dieu. Ils étaient, comme il a dit, ils étaient les idoles étrangers, les dieux étrangers. Ils n'étaient pas partis de l'alliance entre Dieu et son peuple. Et David, en tant qu'un homme qui faisait partie d'une alliance avec le vrai Dieu, ne pouvait pas adorer ces dieux. Ces deux preuves montrent que David estimait bien que Dieu était son seul bien. Et quelles sont les applications pour 2017? Voilà. Il faut être pratique, n'est-ce pas? Bon. D'abord, je pense, nous voyons dans ces versets la vraie nature de la foi chrétienne. Vous voyez, souvent on pense, c'est quoi la foi chrétienne? D'accord, cette semaine, peut-être la semaine d'avant, je ne sais plus, George Michael est mort. Celui qui a chanté, il faut avoir la foi. Je me souviens, j'avais, bon, peut-être 8 ans, quelque chose comme ça, j'ai entendu cette chanson, j'ai dit d'accord. Je me suis dit, bon, c'est un chrétien, parce qu'il a la foi. Mais franchement, c'est quoi la foi chrétienne? La foi chrétienne doit avoir un objet. Et la foi chrétienne ne peut pas être, d'accord Dieu, moi j'aime moi-même, j'aime la vie, et j'aime le monde, mais je veux bien t'ajouter à ma vie, d'accord? Est-ce que tu peux venir ici et viens avec moi, m'accompagner, mais je vais garder toutes ces autres choses qui sont mes biens aussi, si je suis assez honnête, ils sont plus des biens que toi, pour moi. Ça, c'est pas la foi chrétienne. La foi chrétienne dit, Dieu est mon seul bien. Il est le bien de tous mes biens, et si je perds tous les autres biens, je serai content d'avoir Dieu. Ça, c'est la vraie foi chrétienne. Ce n'est pas une œuvre, ce n'est pas des sentiments, c'est une estimation. On trouve par la grâce de Dieu que Dieu est tout et suffisant pour nous. Est-ce que ça veut dire que chaque jour, chaque instant du jour, j'ai dans mon cœur la joie qui dit oui, je suis très content de perdre tous parce que j'aime Dieu plus que tous. Non. On lit dans la Bible plusieurs fois, dans les psaumes, hein, la tristesse, même la déprime. Mais chaque fois, il retourne à croire. Avec toi, Dieu, j'ai tout ce que j'ai besoin. Et ça, c'est le cœur d'un vrai chrétien. Ce n'est pas les sentiments, c'est cette estimation, c'est cette croyance, c'est cette foi. Dieu est suffisant. Dieu est mon seul bien. Et si vous êtes ici ce matin, d'accord, et ça vous manque, franchement, pas les sentiments, mais cette estimation que Dieu est suffisant. Bon, d'accord, l'église, ça c'est bien, j'aime passer le temps avec les gens qui sont gentils, d'accord. Ça ne suffira pas. Il faut entrer dans cette alliance avec Dieu par Jésus-Christ. Dieu est le seul bien. Ça nous donne un peu d'idée de la vraie nature de la foi, mais nous voyons aussi la clé d'une vie caractérisée par la joie. Si Dieu est mon seul bien, serais-je bouleversé quand mon portable ne marche plus? Bon, ça c'est un peu léger, je sais. Mais quand même, hein, quand le portable ne marche plus, hein, ça c'est un peu embêtant. Si je me trouve dans le métro et tous les trains sont supprimés, annulés, hein, est-ce que je peux avoir la joie? Oui, si Dieu est mon seul bien. Si je perds mon travail et maintenant je ne sais plus comment je vais pouvoir pour ma famille. Est-ce que je peux avoir la joie? Oui, si Dieu est mon seul bien, oui, je peux garder la joie parce que j'ai pas perdu Dieu. J'ai perdu un travail. Mais c'est Dieu qui est le maître et qui pourvoit pour moi. Ou peut-être je perds la santé. Et je me trouve sans puissance. Je peux presque rien faire. Est-ce que je peux garder la joie? Bon, si Dieu est mon seul bien, la réponse est quoi? Oui. Parce que j'ai pas perdu mon Dieu. J'ai perdu ma santé. Vous voyez comment ça marche? Et dans le domaine des relations, parce que je sais que chaque personne dans cette salle était blessée cette année qui est passée. Et je sais que vous serez blessé par une autre personne l'année qui est arrivée, 2017. Est-ce que cette vérité que Dieu est mon bien, est-ce que ça, cette vérité, peut-elle me donner la joie même quand mes prochains me blessent? La réponse, c'est quoi? C'est oui, parce que Dieu reste fidèle. Même si mon meilleur copain me blesse et m'abandonne, Dieu est toujours là. Dieu est toujours là. Et troisièmement, ce psaume, le fait que Dieu est notre seul bien nous donne un peu d'idée de ce qui va venir pour nous dans l'avenir. Vous savez, hein, si vous êtes chrétien, vous ne vivez pas pour aujourd'hui. Le meilleur vient après. Le meilleur vient après la mort. Et la fin de ce passage, on lit David qui dit au verset 10, « Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » Ça, c'est une affirmation de son confiance, de sa confiance, qu'il passera l'éternel, même après la mort, avec Dieu. Mais comment? Comment? Bon, tournez avec moi en Actes, chapitre 13. Pardon. Actes, chapitre 13. Et je vais commencer à lire au verset 32. C'est Paul qui est en train de prêcher. Il dit, « Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit dans le psaume 2e. C'est-à-dire, quand Dieu a ressuscité Jésus, il a accompli ce qui était écrit dans le psaume 2. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. C'est-à-dire, quand Dieu dit je t'ai engendré aujourd'hui, ce n'était pas une référence au fait que dans le passé, Jésus a été créé. Il est déjà là. Il a déjà vécu. Il est déjà mort. Et maintenant, dans la résurrection, il dit, ça c'est l'accomplissement de psaume 2. C'est l'installation de Jésus dans sa position hyper exaltée. D'accord? Il continue. Qu'il est ressuscité des morts de telle sorte qu'il ne retournera pas à la corruption. C'est ce qu'il a déclaré en disant, je vous donnerai les grâces saintes promises à David, ces grâces qui sont assurées. C'est pourquoi il dit encore ailleurs, tu ne permettras pas que son saint voie la corruption. Est-ce qu'on a déjà vu ces mots quelque part aujourd'hui? Oui, le psaume 16. Or, David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort et a été réuni à ses pères et a vu la corruption. Mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption. Sachez donc, hein, frère, que c'est par lui, Jésus, que le pardon des péchés vous est annoncé et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse. Et je m'arrête là-bas. David, il avait cette confiance. Je ne verrai jamais la corruption. Je vais passer l'éternité avec mon Dieu. Mais on apprend ici que cette confiance vient seulement grâce à Jésus, qui est mort et qui est ressuscité et qui vit aujourd'hui. Et il est le prémisse de toutes les personnes qui ne verront jamais la corruption. Ça, c'est notre destin. Ça, c'est notre futur en Jésus-Christ. Quelle bénédiction! Comment ça nous aidera en 2017. Bon, réfléchissez-vous. Hein. Si vous avez l'espérance d'une vie éternelle devant Dieu, où on peut dire avec David, tu me ferais connaître le sentier de la vie, il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Si ça, c'est toujours devant vous, est-ce que vous pouvez supporter des souffrances en 2017? Oui, parce que la promesse est grande, elle est immense et elle est sûre. C'est vrai que nous vivons dans une situation précaire dans ce monde. Mais nous avons, grâce à Dieu, l'opportunité d'entrer dans une alliance avec lui, où il est notre bien. Et si ça c'est vrai, ça se voit dans nos vies. Hein. Nous aimons tous ceux qui aiment Dieu comme ça, et nous quittons tous ceux qui n'aiment pas Dieu. C'est pas à dire nous ne passons pas le temps avec nos amis incroyants, mais nos meilleurs amis sont des chrétiens qui partagent ce lien avec Dieu. Et nous avons en Jésus-Christ cette promesse. Nous passerons éternité avec Dieu et les délices de Dieu seront à nous. Prions ensemble. Père Céleste, nous demandons ton aide parce que nous ne pouvons pas vivre d'une manière fidèle et juste comme tu es digne. Mais nous te remercions pour Jésus qui est notre justice et pour le Saint-Esprit qui demeure en nous pour nous aider à vivre d'une manière qui te plaît. Sois avec nous, aide-nous pendant cette année et nous prions au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen.